Voici le journal de Julie Drouin. Bonjour Julie.
Bonjour à tous.
Avec à la une ce matin, le candidat Emmanuel Macron qui se met au vert avec un meeting à Marseille hier, entièrement consacré aux enjeux climatiques. Une main tendue aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot.
Agir pour l'urgence climatique tout en luttant contre la dépendance énergétique. Voilà l'objectif du coup de pouce de 1000 euros pour les particuliers qui veulent installer une pompe à chaleur. Insuffisant, voire inutile, estiment des professionnels de la rénovation énergétique. Consommation plus durable, plus éthique, c'est la tendance de notre époque, comme le montre une enquête portant essentiellement sur nos recherches Internet. Le numérique, justement, quelle place accordent nos candidats à la présidentielle, à la protection de nos données? On y répond dans un instant. Et puis, en Ukraine, le régime russe vise les sites militaires de la capitale. Pourtant, et malgré les appels à la prudence du maire, les habitants commencent à revenir.
Nos invités à 8h20, avant la bénédiction du pape ce matin, Urbi et Orbi, question sur la parole politique de François, la géopolitique du Vatican. On va en parler avec deux invités, l'historien Bernard Lecomte et la journaliste et réalisatrice Constance Colonna Cesari.
Et puis le journal des sports du soleil sur le Paris-Roubaix ce dimanche et un beau classico en début de soirée, PSG contre l'OM.
France Inter.
Emmanuel Macron a mené hier une opération de séduction à Marseille avec dans son viseur les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, sortis largement en tête du premier tour dans la deuxième ville de France, et puis ceux également de Yannick Jadot. Le président sortant tenait un meeting dans les jardins du Pharo, au-dessus du Vieux-Port, devant un public assez clairsemé. Il a consacré la quasi-intégralité de son discours à l'écologie, un discours truffé de gros clins d'œil, Simon Le Baron.
Un faux découragement.
Je vais vous avouer quelque chose. Je n'ai aucune envie de faire 5 ans de plus.
Pour une vraie promesse.
Je ne veux pas les faire en plus. Je veux que ce soit 5 années de renouvellement complet.
Ma politique sera écologique ou ne sera pas, jure Emmanuel Macron. Et pour le prouver, il a une annonce choc. S'il est réélu, son Premier ministre sera chargé de la planification écologique.
Parce que cela démontre irréfutablement l'importance que nous accorderons à ce combat du siècle.
Il créera aussi deux ministères, de la transition énergétique et de la planification écologique territoriale. Et il n'y a pas que ce concept qu'il emprunte à Jean-Luc Mélenchon. Il y a aussi le nom de son programme.
Chacun devra prendre sa part dans cet avenir en commun que nous avons à construire.
Un plan de purification de l'air dans les écoles, 140 millions d'arbres plantés, une fête de la nature sur le modèle de celle de la musique. Le candidat repeint tout son discours en vert et s'adresse enfin aux électeurs tentés par le ni Macron ni Le Pen.
Parce qu'on vous a farci la tête que c'était la même chose. Non, ça n'est pas la même chose.
Sauf que cette fois, le Front Républicain ne suffira pas. Son appel du pied très prononcé aux électeurs de gauche et écologistes en est la preuve.
Et du côté de la France Insoumise, en vue des législatives et quant à un éventuel rapprochement, eh bien, la présidente du groupe à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, a fermé la porte au Parti socialiste dans une interview au JDD. Et puis avec Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste, eh bien, cela devra se faire autour de l'avenir en commun, le programme de Jean-Luc Mélenchon.
Généraliser les pompes à chaleur pour limiter notre dépendance au gaz russe, eh bien, c'est l'objectif de la mesure en vigueur depuis le 15 avril.
Oui, ceux qui installeront une pompe à chaleur ou une chaudière à bois d'ici la fin de l'année recevront 1000 euros d'aide supplémentaire. Le gouvernement entend ainsi soutenir les foyers les plus modestes, car face à la montée des prix du gaz et du fioul, se chauffer va vite devenir un luxe, d'autant plus si l'on vit dans une passoire énergétique. Mais ce coup de pouce ne fait pas l'unanimité chez les professionnels de la rénovation énergétique. Ils répondent à Delphine Simon.
À la Confédération des artisans du bâtiment, on dénonce une mesure en trompe-l'œil. D'habitude, les certificats d'économie d'énergie complètent le montant de ma prime rénove, sauf que ce reste à charge est de moins en moins compensé. Les 1000 euros supplémentaires annoncés ne suffiront pas, explique le président de la CAPEB, Jean-Christophe Repon.
3000 euros de reste à charge sur une pompe à chaleur à 12 000 euros, les ménages vont réfléchir avant de faire le chantier. Cette mesure ne vient pas compenser le reste à charge, qui est assez considérable après l'arrêt des coûts. Donc, artisans du bâtiment, nous sommes très inquiets.
Pire, si on se contente de remplacer une chaudière à gaz par une pompe à chaleur en plein hiver, il faudra qu'elle produise de la chaleur bien au-delà de sa capacité. On devra donc utiliser de l'électricité en appoint, rappelle l'ingénieur Olivier Zidler, spécialiste de la rénovation énergétique.
On ne peut pas faire ça dans n'importe quel bâtiment, dans n'importe quel logement. On va avoir une pointe l'hiver qui sera satisfaite non pas par du nucléaire, il ne fait pas la pointe, mais par des centrales au gaz. Et donc, on va avoir besoin d'encore plus de gaz que ce qu'on consomme actuellement.
Installer des pompes à chaleur n'a de sens, selon lui, que si on rénove les bâtiments de façon complète et performante. Or, à ce stade, avec les aides publiques actuelles, seuls 60 000 ménages sont assurés de disposer d'un financement suffisant.
Dis-moi ce que tu cherches sur Google, je te dirai où tu en es de ta consommation. Kantar, le leader mondial des données des études, a lancé une vaste enquête sur les tendances en matière de durabilité en analysant près de 8 milliards de données ces 5 dernières années. Conclusion, Agnès Soubiran, la décroissance n'est plus un tabou.
Les mots gaspillage, surconsommation ont été tapés en moyenne 246 millions de fois par mois, avec une préoccupation récurrente chez les consommateurs.
Est-ce que la marque que je consomme est une marque de fast fashion ?
Roman Tachinski, expert en analyse de données chez Kantar.
Derrière, l'idée, c'est est-ce que finalement, la marque que je suis en train d'acheter, elle est en ligne et elle fait sens par rapport aux valeurs que j'ai envie de défendre.
Parmi ces valeurs, les conditions de travail des Ouïghours, les recherches avec ces mots-clés ont augmenté de 87% au cours des 2 dernières années.
Toutes ces recherches Internet, elles vont dans ce sens-là. La décroissance ne fait plus peur parce que finalement, ce qui fait le plus en plus peur, c'est là où nous emmène la surconsommation.
Pour consommer moins et mieux, l'économie circulaire apparaît de plus en plus comme la solution. Thomas Gounod a créé il y a tout juste un an Camsider, une plateforme en ligne dédiée aux équipements de sport de seconde main. Succès immédiat.
C'est assez logique finalement parce que dans les sports outdoor, en fait, on le pratique là où l'impact écologique est le plus visible. On connaît un peu tous les images de la mer de glace à Chamonix qui finalement reflète tout ce qui est en train de se passer.
L'étude révèle aussi un nouveau rapport au temps avec une exigence sur la durabilité des produits et un concept de slow life, littéralement vie lente, qui suscite la curiosité des internautes avec des recherches en hausse de 50% depuis 2 ans.
Alors, à l'heure où nos données sont analysées de toutes parts, quelles sont les propositions des candidats sur la question du numérique ? Le secteur regroupe de nombreux enjeux pour demain, tant économiques, sociétaux que sécuritaires. Bonjour Xavier Domani.
Bonjour.
Et cela, Emmanuel Macron et Marine Le Pen semblent l'avoir bien compris.
Oui, en 2017, le numérique avait déjà pris une place de choix dans le programme d'Emmanuel Macron. Marine Le Pen, elle rattrape son retard en y consacrant cette fois un livret thématique d'une dizaine de pages. Fin des zones blanches, promet la candidate du RN. Emmanuel Macron, lui, veut achever d'ici 3 ans la couverture fibre du pays. Le candidat président se démarque avec l'apprentissage du code informatique dès la 5e, mais tous les deux sont favorables à une sorte de contrôle parental par défaut sur les appareils connectés. Pour lutter contre la cybercriminalité, filtre anti-arnaque, patrouilleur du web et numéro de téléphone d'aide aux victimes, propose le sortant, quand Marine Le Pen suggère la création de commandos numériques pour faire face aux attaques et veut, comme son concurrent, augmenter les moyens de l'ANSSI, l'Agence Nationale de Sécurité Informatique.
Le RN qui insiste sur la souveraineté numérique.
En effet, pour Marine Le Pen, le stockage des données des Français et l'hébergement des services publics numériques ne peut se faire que dans l'Hexagone ou, à la rigueur, en Europe. Emmanuel Macron mise lui plutôt sur l'innovation, comme il y a 5 ans d'ailleurs. Numériser l'État, il cite l'exemple de Tous Anti-Covid. Innover, il propose une 3e révolution agricole et un métavers européen. Continuer aussi à soutenir les licornes. Vient enfin la question des GAFAM. Le président sortant se dit favorable à un démantèlement des grandes entreprises type Facebook ou Google pour limiter leur influence. Marine Le Pen veut obliger ces plateformes à collaborer avec les services de police, mais on ne sait pas trop comment. Et surtout, n'hésitera pas, si c'est nécessaire, à créer, assure-t-elle, un autre réseau social public, libre et gratuit pour les concurrencer.
Xavier Domani, l'actualité à l'étranger, 8h08, avec de nouvelles frappes russes qui ont visé hier la capitale ukrainienne.
Et le maire de Kiev, Vitali Klitschko, met en garde les Ukrainiens, ne revenez pas dans la capitale, restez dans un endroit sûr. D'autant que Moscou a promis vendredi d'intensifier ses frappes sur la capitale, mais à la gare centrale, si on voit toujours des Ukrainiens qui quittent le pays, il y en a désormais qui reviennent. Reportage de nos envoyés spéciaux à Kiev, Jérémy Tuil et Faustine Kelmel.
Au pied de la tour de l'horloge, 51 mètres de haut, on ne voit plus s'étirer la file de ceux qui fuient avec quelques valises. Au contraire, voie 8, le train de Varsovie entre en gare. Anna en descend des paquets plein les bras. Elle avait quitté Kiev il y a tout juste un mois.
Quand j'ai acheté mon billet de train en Pologne, la caissière a demandé si j'avais peur de rentrer ici en Ukraine. J'ai répondu oui, bien sûr, j'ai très peur. Mais mon deuxième chat est chez ma voisine depuis mon départ. Et puis Kiev, c'est ma maison. Et être ici, ça me donne de l'énergie.
C'est aussi un moyen de se rapprocher d'une partie de sa famille qui vit à Mariupol et dont elle n'a plus de nouvelles depuis 6 semaines. Réconfort psychologique, même si...
C'est sûr qu'en traversant la ville, je vais revoir les barricades, les points de contrôle. Je pense que cette angoisse reviendra bientôt. Mais pour l'instant, je suis en forme.
Quelques mètres plus loin, Valeria, 11 ans, entame un long voyage pour rejoindre sa tante à Toulouse.
J'y suis allée en septembre. J'aime beaucoup, mais je ne sais pas.
L'enfant est inquiète à l'idée de quitter sa mère. Marina explique que leur village a commencé à être bombardé alors qu'elle va mettre sa fille en sécurité, mais elle promet de revenir avec un prochain train pour retrouver sa ville et son pays.
Et selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, plus de 40 000 personnes supplémentaires ont quitté le pays ces dernières 24 heures. La Chine n'arrive toujours pas à maîtriser la reprise de l'épidémie de Covid qui touche le pays depuis le mois dernier. Les autorités ont réimposé hier un confinement partiel à la ville de Xi'an, dans le centre du pays. Shanghai, elle est toujours confinée de manière totale et les habitants rencontrent de plus en plus de difficultés pour se nourrir. Avec le confinement, il est impossible de faire des courses et de nombreuses familles n'ont plus de quoi manger. À Pékin, la ville n'est pas confinée, mais les habitants se préparent au pire et font des stocks de nourriture, comme a pu le constater dans un marché notre correspondant Sébastien Berriot.
Dans le grand marché de Shangfu à Pékin, tout le monde ou presque a entendu parler des familles de Shanghai en détresse à la recherche de nourriture. Même si dans la capitale, la situation sanitaire est très correcte, avec moins d'une dizaine de cas positifs enregistrés cette semaine, beaucoup d'habitants se préparent à une possible aggravation et font des stocks de nourriture. À la sortie du marché, les sacs sont bien remplis.
Mes amis, mes voisins, tout le monde a stocké du vermicelle et des pâtes chinoises. Cela peut être conservé pendant une longue période et tout le monde a acheté aussi des sacs de 2,5 kg de riz et de 5 kg de blé. C'est stocké à la maison.
J'ai assez d'approvisionnement chez moi. Si l'épidémie revient, j'ai de quoi tenir un ou deux mois. Pas de souci.
Les achats de viande ont notamment beaucoup augmenté, comme le constate cette commerçante.
Presque chaque personne qui vient ici achète davantage, une moyenne de 140 euros pour le porc. Les gens emportent la viande dans des grands sacs pour stocker. Ils demandent à ce que ce soit coupé en petits morceaux pour mettre au congélateur.
Les autorités se veulent rassurantes, expliquant avoir pris toutes les mesures nécessaires pour garantir l'approvisionnement de la capitale en denrées alimentaires et en produits de première nécessité. Pékin, Sébastien Berriot, France Inter.
Reportage signé Sébastien Berriot.
Exactement, 8h12, c'est l'heure des sports.
Et bonjour Laetitia Bernard.
Bonjour.
Et on a du soleil pour les coureurs de l'Enfer du Nord aujourd'hui.
Et oui, départ de la course cycliste du Paris-Roubaix à 11h ce matin, après la victoire de l'Italienne Elisa Longo-Borghini dans la course féminine donc hier. Qui va remporter l'épreuve masculine? Une chose est sûre, ça va rouler très vite. On oublie la boue, les numéros d'équilibriste des coureurs en octobre dernier. Aujourd'hui, ce sera poussière et pavé sec. Le directeur de la course, Thierry Gouvenous, essaye à quelques pronostics.
Alors, j'ai réclamé pendant des années la pluie sur Paris-Roubaix. J'ai été gâté l'an passé. J'admets que je prends une année avec des pavés secs avec vraiment plaisir. Évidemment, ça va être beaucoup plus rapide. Les secteurs sont très propres, très secs. Et ça va avantager les gros rouleurs. Et on en a. On aura le champion du monde du contre-la-montre. On aura Ghana. On aura Stéphane Kuhn. Ça, c'est des coureurs qui vont vraiment être bien sur ce genre de parcours. On a Asgreen aussi qui arrive en forme. Ça, c'est des vrais rouleurs qui vont aimer ces conditions pour batailler avec Van Der Poel. Et puis, on a en ce moment des Français qui réussissent bien sur les classiques, il ne faut pas les oublier et on espère que sur l'arène des classiques ils seront présents aussi également.
Alors je rappelle qu'il y a quand même 257 km à parcourir dont plus de 54 de pavés. Bonne chance donc à tous les coureurs du Paris-Roubaix.
Le Stade Toulousain lui crée la sensation aux Coupes d'Europe de rugby et reste en course pour défendre son titre.
Et alors pourtant, on était nombreux à les voir éliminer les Rouges et Noirs. Battus en 8e de finale aller, tout a basculé grâce à un essai de Ramos à la 75e minute du match. Retour hier soir en Ulster, en Irlande. Et voilà donc Toulouse qui file en quart de finale, tout comme Montpellier et le Stade Rochelet. Ils seront rejoints par un club francilien cet après-midi puisque le Stade français affronte le Racing 92.
Et pour les amateurs de football, ce soir, c'est le Classico.
Le PSG, le leader de la Ligue 1, qui reçoit son dauphin, l'Olympique de Marseille. Paris est intouchable en tête du championnat. Reste que l'atmosphère de ce duel est toujours électrique. Alors comment et pourquoi entretient-on cette rivalité? Élément de réponse avec vous, Cédric Guillou.
Née au début des années 90, la rivalité entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille a été rendue possible par le déclin de certaines équipes et par une véritable stratégie nourrie par l'argent et les médias. Jean-Baptiste Guégan, spécialiste en géopolitique du sport, auteur du livre « La République du foot ».
Concrètement, avec l'arrivée de Canal+, à la tête du club, avec Bernard Tapie, Michel Denisot, construisent littéralement et artificiellement une rivalité entre les deux clubs. Et aujourd'hui, on est sur cet héritage-là.
Les classicos seront âpres, disputés, électriques durant deux décennies jusqu'en fait à l'arrivée des Qataris au Paris Saint-Germain en 2011 qui va un peu atténuer cette rivalité.
C'est vrai que l'arrivée de QSC et du Qatar à la tête du Paris Saint-Germain a changé le rapport de force, c'est-à-dire que les moyens sont du côté de la capitale et Marseille regarde avec envie les moyens parisiens et plus encore les joueurs qui sont placés sur le terrain. Maintenant, ça n'empêche pas que Marseille joue sa carte et ça va être intéressant de voir le résultat qui va en sortir, ça va être déterminant pour les places européennes.
L'OM peut retarder le sacre du Paris Saint-Germain, Paris peut ralentir Marseille dans sa quête de la deuxième place. L'héritage médiatique fait toujours de ce classico un match à part. Mais en cette fin de saison, il y a aussi un véritable enjeu sportif pour les deux clubs.
PSG-OM, coup d'envoi 20h45. Enfin, l'affiche de la finale du tournoi Masters 1000 de tennis à Monte Carlo. L'invité surprise, Alejandro Davidovich Fokina, défie le tenant du titre, le grec numéro 5 mondial, Stefanos Tsitsipas. Match à 14h30.
Merci Laetitia.
Dans le journal de Julie Drouin, le temps de ce dimanche.
La météo avec Euromaster, toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Un beau dimanche, Jean-Pierre Hameau.
Un beau dimanche de Pâques, généralement sous le soleil. À noter quand même quelques bandes de brouillard éphémères ce matin entre la Bretagne et la Normandie. Et puis comme hier, vous retrouverez des entrées maritimes sous forme de nuages bas entre les Landes et le Pays Basque, gagnant la plaine toulousaine et le Tarn. Cette grisaille va se dissiper avant la fin de la matinée. Elle résistera près des côtes basques tout au long de la journée. Dans l'extrême sud-est, les nuages bourgeonnants vont se développer cet après-midi, apportant quelques averses avant ce soir. Et puis on surveillera l'arrivée d'une perturbation essentiellement nuageuse sur la pointe bretonne en fin de journée. Les températures maximales évolueront entre 18 et 24 degrés, avec 18 à Biarritz et Nancy, 21 à Marseille, 22 à Paris et 24 à Bordeaux. Changement de temps demain lundi, prévoyez un ciel très nuageux et quelques gouttes d'eau entre la Nouvelle-Aquitaine et la Normandie, des éclaircies dans l'ouest et puis le soleil résistera sur la moitié est du pays ainsi qu'en Corse. Les températures vont baisser pour se rapprocher des normales de saison.
Jean-Pierre Hameau, Météo France.